Les droits humains, ça nous regarde. Chères auditrices et auditeurs, soyez les bienvenus à cette émission qui vous est présentée par les membres des groupes du Sud-Ouest francilien d'Amnesty International France, avec le soutien de Marmite FM, fréquence 88.4. Aujourd'hui, l'émission vous est présentée par Béatrice Martin et Graciela Lamarque. Comme promis, dans notre émission précédente, nous allons poursuivre notre réflexion sur les discriminations. Graciela, pour commencer, il y a une question essentielle à mon avis, c'est d'où viennent les discriminations ?
On parle pas mal des discriminations dont peuvent faire preuve les États ou les institutions, mais est-ce que les individus, c'est-à-dire nous-mêmes, peuvent être à l'origine de la discrimination vis-à-vis d'autres personnes ?
Évidemment. Prenons comme point de départ notre vision du monde. Elle est pour ainsi dire peuplée de préjugés et de stéréotypes.
Qu'est-ce qu'on entend par stéréotype ?
Alors, un stéréotype, c'est une croyance que l'on prend pour une vérité à propos des caractéristiques et des comportements de l'ensemble des membres d'un groupe. Prenons par exemple trois clichés, les filles sont douces, les Asiatiques sont forts en informatique, ou les personnes noires sont bonnes en sport.
Mais si tu dis « les Asiatiques sont forts en informatique » ou encore « les personnes noires sont bonnes en sport », ça semble positif.
Alors oui, un stéréotype peut sembler positif, mais il a souvent une portée négative.
Une portée négative, mais pourquoi ?
Prenons le stéréotype « les noirs sont bons en sport ». Ça peut être à l'origine de préjugés qui vont tendre à minimiser le succès d'un sportif ou d'une sportive noire pris individuellement. Ce qui va dévaloriser en quelque sorte ses qualités et ses performances, puisque de toute façon, comme il ou elle est noir, il ou elle est censé avoir des prédispositions pour le sport. Ça voudrait dire que sa réussite n'est pas totalement à mettre à son crédit personnel. Donc c'est quelque chose de vraiment très pernicieux.
Ah oui, je vois très bien. Mais il y a aussi les stéréotypes d'emblée négatifs, n'est-ce pas ? Dont est victime, par exemple, la communauté rom. Dans plusieurs pays européens, dont la France, elle souffre des discriminations. Expulsion forcée de leur lieu de vie, scolarisation dans des classes réservées aux roms, violence raciste. En fait, les préjugés nous font oublier que derrière, il y a tout simplement des êtres humains qui ont des droits.
D'où l'importance que les personnes comprennent les mécanismes à l'origine des préjugés. L'éducation est un moyen et un but crucial pour construire une société plus consciente. L'une des missions principales d'Amnesty International est d'ailleurs l'éducation aux droits humains. On trouve sur le site internet d'Amnesty International France énormément d'actions et beaucoup d'outils sur ce thème.
Instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux personnes réfugiées à travers le monde, la Journée mondiale de réfugiés a lieu chaque année le 20 juin. Pour ne pas oublier ces millions de personnes contraintes de fuir leur foyer. Pour en parler, nous avons invité François Darnaud, membre du groupe des Chaville-Vélizy-Viroflay et de la commission des personnes déracinées d'Amnesty International France. Bonjour et bienvenue François à notre émission « Les droits humains, ça nous regarde ».
Bonjour.
Bonjour et merci François. Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de la loi Asile et Immigration qui a été adoptée en France le 25 janvier 2024 et nous expliquer en quoi elle peut représenter un sérieux obstacle sur le chemin des personnes demandant l'asile en France ?
Bien sûr. Elle a été promulguée en janvier 2024 après la censure d'une partie de ses mesures par le Conseil constitutionnel. Elle porte le nom de loi Darmanin sur l'asile et l'immigration. Elle n'a pas tardé à montrer ses effets néfastes. Cette loi s'évertue à rendre l'accès à la régularisation de plus en plus difficile et à appliquer une politique de l'enfermement et du bannissement. Elle piétine chaque jour davantage les droits fondamentaux des personnes immigrées en France et des demandeurs d'asile. Elle les condamne souvent à vivre dans l'illégalité, la peur au ventre, ou encore à la merci d'employeurs peu scrupuleux. Et aujourd'hui, de nouvelles menaces en France, comme en Europe, risquent d'alourdir encore ce sombre bilan. Aux yeux d'Amnesty International, cette loi a un seul point positif. L'arrêt de l'enfermement des mineurs en centre de détention administrative, les CDA.
Tu parles des faits néfastes. Peux-tu nous en citer quelques-uns ?
Oui, tout d'abord, en matière de droit d'asile, la loi Darmanin prévoit la généralisation d'un système de juge unique pour traiter les dossiers de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ou CNDA. Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, soit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Auparavant, ces dossiers de recours étaient le plus souvent étudiés par trois juges, chacun avec des expertises différentes. Les trois juges siégeant ensemble, c'est le principe de la collégialité. L'un des trois était nommé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou HCR. C'était un acquis précieux, car parmi ces juges, beaucoup ont une expertise sur les pays d'origine des demandeurs, ce qui permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la personne demande l'asile.
Oui, on voit en quoi un juge unique ne facilite pas les choses. En fait, ça réduit beaucoup les angles d'approche de la situation du demandeur d'asile, en fait.
Tout à fait. Ensuite, la loi Asile et Immigration systématise le prononcé des obligations de quitter le territoire français, aussi connu comme OQTF, mais aussi des ITF, interdiction du territoire français, et d'arrêter d'expulsion, même pour des étrangers en situation régulière. Ainsi, cette loi a supprimé la majorité des protections dont pouvaient notamment bénéficier les personnes étrangères arrivées en France avant l'âge de 13 ans, ou les conjoints de Français, les parents d'enfants français, ou encore les personnes malades.
Dans les cadres de cette loi, nous avons également noté la notion de menace à l'ordre public. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Oui. En parallèle, la loi a érigé la notion de menace à l'ordre public. Cette notion floue est laissée à la libre interprétation des préfectures. C'est donc l'arbitraire qui règne en maître pour placer une personne en centre de rétention administrative, les CRA, et pire, à la bannière du territoire français. Et pour mieux garantir l'expulsion, la durée de rétention a doublé en 4 ans. Elle est aujourd'hui de 30 jours en moyenne. Des associations expertes témoignent que dans les CRA, près de la moitié des personnes expulsées l'ont été sans avoir été présentées à un juge, dans l'irrespect total des procédures et des droits.
Oui, et est-ce que tu peux nous préciser aussi, parce que je crois qu'il y a des gros soucis, avec les personnes qui bénéficient déjà d'un titre de séjour ?
Oui, eh bien, dans ce cas, on est face à une multiplication des entraves à l'accès et au renouvellement de ces titres. Déjà, l'accès à la régularisation relève depuis longtemps du parcours du combattant. La loi Asile et Immigration affiche une volonté de rendre le renouvellement quasi impossible. Remplir les conditions nécessaires, telles que travailler et cotiser en France, y avoir rejoint ou construit une famille, y justifier d'une résidence continue, etc., n'est plus suffisant. La nouvelle loi stipule que le non-respect des principes de la République, ainsi que toute menace grave pour l'ordre public, peuvent désormais constituer des motifs de non-renouvellement ou de retrait des titres de séjour. La liste des exigences ne cesse de s'allonger, par exemple l'obtention d'un niveau certifié de français, inaccessible pour le plus grand nombre, qui a remplacé l'obligation d'avoir suivi un apprentissage de la langue. Et de plus, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous à la préfecture atteignent souvent 3 ans et rendent la demande d'obtention ou de renouvellement du titre de séjour tout simplement périmée. Tous ces obstacles n'ont pour résultat que de maintenir les personnes sans papier et de replonger celles qui n'ont pu renouveler leur titre de séjour dans l'illégalité, la précarité, la privation des droits et de protection sociale.
Je comprends que c'est pour ça que l'on parle souvent de la fabrique des sans-papiers.
Absolument. Et la circulaire Retailleau du 25 janvier 2025, qui remplace la circulaire Valls de 2012, va encore aggraver la situation, mettant en avant une durée de 7 ans minimum de présence en France pour solliciter un titre de séjour contre 5 auparavant.
Alors François, on avait aussi une autre question pour toi. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de migrants, de demandeurs d'asile, de réfugiés, est-ce que, quelle différence en fait devons-nous faire entre ces termes ?
Oui, il est très important de faire une différence entre ces termes, car chacun d'eux désigne une situation et un statut juridique distinct. Migrant, ce terme désigne une personne qui se déplace d'un pays à un autre, souvent pour des raisons économiques, sociales, familiales ou encore climatiques. Les migrants peuvent choisir de quitter leur pays d'origine pour améliorer leur qualité de vie. Demandeur d'asile, il s'agit d'une personne qui a fui son pays d'origine et qui demande une protection internationale en raison de persécutions ou de menaces graves. Le statut de demandeur d'asile est en attente de décision par les autorités compétentes. Enfin, réfugié. Un réfugié, c'est une personne qui a obtenu le statut de protection internationale, généralement parce qu'elle a prouvé qu'elle a été persécutée ou qu'elle peut craindre des persécutions dans son pays d'origine. Les réfugiés bénéficient de droits spécifiques en vertu du droit international. Ces distinctions sont importantes pour comprendre les droits et les protections auxquels ces personnes ont accès.
Très intéressant et effectivement important de pouvoir distinguer. Maintenant, chaque jour nous apporte son lot des nouvelles alarmantes. Par exemple, les migrants qui, après un long périple, trouvent la mort en tentant de trouver une vie meilleure. Ou encore la situation des femmes migrantes qui est particulièrement difficile. Ou les migrants mineurs qui se retrouvent seuls, éloignés de leur lieu d'appartenance et de leur famille. Comment se positionne Amnesty International par rapport à ces problématiques ?
Amnesty International se positionne fermement en faveur des droits des migrants et des réfugiés en dénonçant les violations des droits humains qu'ils subissent. L'organisation met en lumière les dangers auxquels ces personnes font face, notamment ceux qui tentent de traverser les frontières dans des conditions périlleuses, ainsi que les défis spécifiques rencontrés par les femmes migrantes et les mineurs non accompagnés. Nous appelons à des politiques migratoires plus humaines et respectueuses des droits, plaidant pour la protection des personnes vulnérables et l'accès à des services essentiels. L'organisation s'engage également à sensibiliser le public et les gouvernements sur ces questions en soulignant l'importance de la solidarité. En résumé, Amnesty International œuvre pour garantir que les droits des migrants soient respectés et protégés, tout en appelant à des actions concrètes pour améliorer leur situation.
Alors François, tu parles d'actions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?
Eh bien, par exemple, rejoindre un groupe local d'Amnesty International, parce qu'il est plus facile de porter la voix des droits humains collectivement plutôt que tout seul.
C'est vrai.
Une action très importante que tout citoyen peut faire, c'est profiter de toutes les occasions pour interpeller nos élus, les municipalités et surtout les députés qui votent les lois. Il faut qu'ils entendent nos voix et non pas seulement le son de cloche de celles et ceux qui veulent toujours plus de barrières et de répression vis-à-vis des migrants et des demandeurs d'asile. Et pour celles et ceux qui veulent s'impliquer plus concrètement, il existe beaucoup d'associations locales qui accueillent et accompagnent les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et des associations nationales, comme la CIMAD ou France Terre d'Asile, qui font un travail formidable auprès des migrants, notamment dans les centres de rétention administrative. Les occasions de se rendre utiles et solidaires ne manquent pas.
Et oui, et si je peux ajouter, tu parlais d'associations qui font un super boulot en France. Il y a par exemple l'Union des étudiants exilés, qui a été créée par un jeune Syrien, un réfugié, et qui aide les étudiants, enfin les personnes qui souhaitent reprendre des études en France, à les reprendre avec un programme spécialisé. Et c'est vraiment super.
Eh bien, ce fut un moment formidable, si on veut bien s'exprimer. Merci beaucoup, François, pour toutes ces précisions, pour ta présence et pour ces explications.
Le groupe Amnesty Chartres, en partenariat avec l'association OSE, qui accompagne de jeunes allophones, travaille justement sur un projet en lien avec le thème dont on vient de parler. Constitué d'ateliers, d'une vidéo et d'une exposition itinérante, ce super projet s'appelle « OSE te mobiliser contre les discriminations ». Rendez-vous en juin pour le découvrir. Les détails seront donnés sur la page Facebook du groupe de Chartres.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous voulez connaître nos actions dans notre région du sud-ouest francilien, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous habitez Chartres ou les villes alentours, voici l'adresse mail chartres@amnestyfrance.fr. Nous serons ravis de vous répondre. Vous pouvez également visiter les sites internet d'Amnesty International France pour prendre contact avec un groupe et lui indiquer votre intérêt pour les droits humains.
Chères auditrices et auditeurs, merci, merci pour votre écoute. Mais nous avons besoin de vous pour continuer à vous parler de nos actions en éducation pour les droits humains. Vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à Marmite FM.
Vous pouvez aussi nous écouter les mardis à 16h30 et les dimanches à 10h30 et en podcast sur les sites des Marmites FM.
Il me reste à dire un grand, grand merci à Ronan pour la technique et à toute l'équipe de Marmite FM. À bientôt!